Voilà, voilà. Donc nous allons démarrer ce premier rendez-vous avec nos invités qui représentent la dimension culturelle de l'Université de Lille. Et notamment aujourd'hui, on va parler art plastique et d'un projet, plus qu'un projet, on peut le voir concrètement aussi, donc qui est porté par un artiste ici présent. Donc en direct, nous avons, allez, à ma droite,
Vincent Forniquet, je travaille pour la direction culture à l'Université de Lille, je suis chargé de projet art plastique et résidence d'artiste.
Voilà, et à ma gauche,
Dewi Brunet, artiste plieur.
Voilà, donc Dewi, nous nous sommes rencontrés, j'ai visité votre exposition, on a passé un peu de temps à la présenter au public, donc aujourd'hui on va rediffuser le montage que j'ai fait, enfin quand je dis montage, je n'ai pas changé grand chose à l'entretien que nous avons eu sur place dans l'exposition, on va repartir à zéro, comme si nous ne l'avions pas, enfin moi je ne l'avais pas vu, d'accord ?
Ça va.
Pour la présenter à nos auditeurs. Donc Vincent Forniquet, peut-être peut-on parler un petit peu du service culture de l'Université de Lille d'une manière globale et voir en quoi donc le projet art plastique est intégré à un concept peut-être, à une idée générale et puis surtout un travail envers, enfin, ouvert à un public à définir.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est une chance déjà à l'Université de Lille d'avoir un service culturel qui est assez développé et soutenu donc par l'institution elle-même. Au sein de ce service culturel, on propose plein d'activités qui sont gratuites et ouvertes à tous, entre le spectacle vivant, la musique, les ateliers de pratique artistique à destination des étudiants et du personnel, et aussi donc les expositions dont j'ai la charge. Il y a plusieurs pans en fait qui sont super intéressants à développer et qui sont un plaisir pour moi en termes de travail en tout cas. Alors notamment dans les résidences, en fait, le truc qu'on essaie de faire quand on propose une exposition ici, parce qu'on a la chance d'avoir deux galeries d'exposition, une petite qui doit faire 35 mètres carrés qui est à Pont-de-Bois, sur le campus Pont-de-Bois, et une autre ici à l'espace culture à côté de Radio Campus, qui est beaucoup plus grande. Je sais pas quelle est sa surface d'ailleurs, mais ça représente...
Oui, en plus on peut intégrer les couloirs, etc.
Ouais,
donc ça fait
ouais.
Quand même une vraie surface.
Tout à fait. Donc ça, c'est des vrais lieux qui sont destinés à recevoir des expositions. Et en dehors de ça, bien sûr, on propose aussi, vu que l'Université de Lille a une tendance tentaculaire à l'absorption de composantes, comme on dit aujourd'hui, à proposer de la culture et de la diffusion, notamment d'art visuel, dans des lieux qui ne sont pas forcément destinés à recevoir ce genre de prestations, on va dire, c'est-à-dire des lieux de passage. Mais voilà, dans ces deux galeries, en tout cas, là, on a la chance de pouvoir vraiment recevoir des artistes pour présenter des œuvres dans des conditions réelles de démonstration, comme on dit aussi. Et du coup, c'est une chance parce que autour de ces temps longs que sont les expositions, on peut organiser pas mal d'actions à destination des étudiants et du personnel, notamment évidemment des visites, des rencontres avec les artistes. Ça arrive régulièrement. On a pas mal de parcours pédagogiques qui sont très friands de ce genre de choses. Et notamment, c'est un public un peu gagné d'avance, mais c'est tous les étudiants et tous les professeurs en art, en culture et médias, en nouvelles démarches de communication ou ce genre de choses. Mais aussi, évidemment, les laboratoires et les chercheurs qui sont aussi relativement friands de ce genre de propositions, notamment depuis qu'on développe le pendant art-sciences. C'est-à-dire qu'avant, avant c'était il y a encore 3 ans, avant l'arrivée des résidences AirLab à l'université, j'en reparlerai après, on invitait des artistes et on faisait des actions, des workshops, mais l'artiste venait, il n'y avait pas forcément de budget pour de la production, il n'y avait pas de création faite pendant le temps précédant le temps d'exposition, on ne faisait pas de bourse de production pour ce genre de choses. On invitait des artistes pour montrer leurs créations existantes la plupart du temps et on menait des actions autour de ces monstrations. Avec l'arrivée de ces résidences, ça nous a permis de développer tout l'aspect résidence de recherche et de création. Et du coup, j'en viens aux résidences AirLab qui sont un concept très particulier qui est parfaitement pertinent dans l'université puisque l'université dispose d'unités de recherche, donc les laboratoires de recherche, comme on dit. Il y en a 62, si je me souviens bien, donc dans des domaines évidemment très variés. Ça va des sciences humaines aux sciences et technologies les plus pointues. La résidence AirLab permet à un artiste de candidater, donc c'est un appel à candidature qu'on fait comme tous les appels à candidature, comme tous les appels à résidence de recherche. Il y a un jury qui sélectionne sur dossier des candidatures qui sont amenées par des artistes qui vont contacter des laboratoires de recherche pour leur signifier leur intérêt pour leur champ de recherche scientifique et montrer une convergence plus ou moins évidente ou à prouver ou à développer en tout cas ou des pistes de recherche et de développement de cette convergence de recherche entre la recherche artistique et la recherche scientifique.
Voilà, donc on a bien compris que c'était un projet novateur d'une certaine manière qui s'appuie aussi, on parlait de la fusion des trois universités, 1, 2 et 3, en une grande entité, donc maintenant qui a en interne plus de ressources qu'avant chacune d'entre elles, et en plus des partenariats qu'on pourrait mentionner avec le Fresnoy par exemple.
Oui. Tout à fait, le Fresnoy est partenaire de la résidence AirLab. Il apporte un soutien technique pendant la phase de production. Donc en gros, une résidence AirLab, ça commence en septembre, enfin ça commence en janvier quand on lance l'appel à candidature. Ensuite, on réceptionne les candidatures jusqu'au mois de mars. Ensuite, il y a les jurys, la première phase de sélection, puis les auditions qui se font en juin en général. Et en septembre, commencent donc les deux résidences AirLab qui sont portées chaque année, qui sont soutenues par la région Hauts-de-France, avec le soutien du Fresnoy, qui est un soutien technique. Donc la résidence de recherche commence en général entre septembre et janvier, on va dire. Et ensuite arrive la phase de production et c'est là que peut intervenir le Fresnoy. C'est-à-dire qu'en fonction des souhaits de l'artiste pour sa production, le Fresnoy peut apporter un soutien, c'est-à-dire mettre à disposition ses lieux et ses équipements. Donc studio photo, studio cinéma, prise de son, ça peut être plein de choses. Enfin tout ce qui est inhérent aux prestations possibles au Fresnoy.
Est-ce que cette expérience ou ce peut-être modèle AirLab, c'est quelque chose qui existe aussi dans d'autres universités ou c'est vraiment une originalité de l'Université de Lille ?
Alors, appelé sous ce terme-là AirLab, c'est propre à l'Université de Lille. Mais je sais qu'il y a aussi, alors pas sous forme de résidence aussi longue, je pense, mais il existe aussi des formes de résidence un peu plus courtes. Je sais aussi que, par exemple, c'est le réseau 50 degrés Nord. Bon, alors, pour le coup, ça reste dans le coin.
Bien sûr.
Mais
oui.
50 degrés Nord, lors de sa résidence Watch G-Space, on est partenaire de l'Université de Lille. Et
d'accord.
Du coup, effectivement, et d'ailleurs, c'est comme ça que Dewey a rencontré pour la première fois les chercheurs du laboratoire de l'INRIA et l'équipe de Frost. Mais c'était une incartade assez courte. Mais en tant que partenaire du réseau 50 degrés Nord, nous, notre proposition, c'était on peut proposer au laboratoire d'accueillir l'artiste ou l'artiste fait la demande de rencontrer un laboratoire et on les met en contact.
Voilà, 50 degrés Nord est évidemment une structure très intéressante et qui nourrit la région, on peut dire, avec des ateliers qui sont un peu partout, même dans la Vénois, etc. Donc c'est vraiment un ensemble, je pense, avec une certaine cohérence régionale. Alors on va revenir donc à notre artiste invité aujourd'hui et invité de l'espace culture en ce moment et bien sûr de l'Université de Lille. Et cet invité est un artiste plasticien mais pas que. Donc David Brunet, comment vous définiriez-vous ?
Oui, alors effectivement c'est toujours un peu compliqué de se définir. Quand je dois le faire, je dis que je suis artiste spécialiste du pliage. Donc un domaine assez particulier qu'on ne voit pas souvent ou qui est souvent cantonné un peu au monde de l'origami et à toutes ces caricatures traditionnelles, figuratives, etc. Et donc mon expertise et mon médium d'expression, c'est le pliage. Alors ça peut être de l'origami, mais ça peut être aussi d'autres techniques de pliage que j'intègre à l'exposition, comme le plissage textile ou les techniques de froissage structuré qui sont encore aussi particulière. Et donc le pliage, qui est à la fois une technique, mais aussi pour moi un vrai champ de recherche aussi, et un prisme un peu pour voir le monde, puisque en fait du pliage, il y en a partout. C'est un des langages du vivant et de l'inerte. Si on observe notre peau ou le développement d'un bourgeon ou notre cerveau, c'est tout ça est du pliage. Et ça permet également, et c'est là aussi tout l'intérêt d'une collaboration avec un laboratoire de recherche comme j'ai pu faire, donc le laboratoire Defrost en l'occurrence, donc de l'INRIA, qui est spécialisé en robotique souple. Donc ils inventent des nouveaux robots faits de matières déformables, principalement du silicone, pour créer des nouvelles applications.
Donc on va dire le pliage devient d'une certaine façon vivant.
C'est ça. Et donc rapidement, avec le labo Defrost, en fait, on s'est rendu compte que l'un comme l'autre, on travaillait des matières souples qui se transforment, qui bougent et qui souvent ont des inspirations, donc comme on appelle biomimétiques, donc inspirées du monde vivant. Donc beaucoup de leurs robots ressemblent ou sont inspirés en tout cas des tentacules de pieuvre ou des trompes d'éléphant pour attraper des choses. Et moi-même, je m'intéresse beaucoup aussi aux inspirations du vivant.
Alors, tout ce qui est robot, robotique, ça peut faire peur, ça peut être utile. Et puis, il peut y avoir un côté esthétique, pourquoi pas même agréable parfois. Comment on jongle avec tout ça pour en faire quelque chose que le public, qui est le vôtre, Espace Culture, puisse l'approprier dans de bonnes conditions?
Voilà, donc ça c'est un peu aussi le au-delà de l'aspect plastique, le fond de ma recherche et de mon questionnement, c'est comment associer un peu des enjeux, des esthétiques aussi, qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir ensemble, donc la technologie, les robots, et puis tout ce qui concerne le vivant et la nature, quoi. Souvent on va avoir des dichotomies un peu, ou des choses un peu caricaturales sur la technologie. Moi, j'ai tendance à croire que des fois on est en... Ou bien on va fantasmer là-dessus, on va adorer, idolâtrer des nouvelles innovations qui vont changer le monde. Ou bien on en a peur et on dit non, moi je veux toucher avec mes mains et je veux que ce soit sans électricité. Et puis un peu sur les enjeux écologiques ou ce qu'on considère du vivant, parfois aussi on a ou bien tendance à le fantasmer dans une vision un peu romantique ou bien... à avoir un désintérêt complet. Et dans l'un domaine, dans les deux domaines, je pars du principe en tout cas qu'il y a un peu un constat d'une crise de la sensibilité, on va dire, comme le philosophe Baptiste Morisot le dit. En tout cas, on a un peu du mal à sentir les robots ou à sentir le vivant. On a quelque chose de l'ordre du sensible, peut-être, qui nous manque des fois pour avoir une connexion un peu plus rapprochée. Donc, moi, mon objectif, c'est de créer des œuvres entre organiques et technologiques qui vont nous amener à se demander est-ce que c'est un robot vivant ou un vivant qui a été robotisé. Et je pense que de plus en plus, y a des frontières qui vont s'entremêler et qui vont créer des points de friction.
Alors, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous voyez que nous, béotiens, nous ne voyons pas de la nature ou dans la nature ?
Je vois plein de choses. Après, ça se travaille. Je pense pas que c'est des choses que je vois, mais plutôt une attention que j'y prête. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dans la vie qu'on met des œillères un peu contre notre gré des fois et qu'on évite de regarder des choses ou qu'on ne prend pas le temps de regarder ces choses. Et donc, bien évidemment, maintenant, j'ai une déformation professionnelle, on va dire, de plieur où tout ce que j'observe, je le regarde avec un prisme du pliage, et j'ai essayé d'en voir comment c'est composé, comment ça se développe aussi. Mon questionnement, par exemple, ici, sur Plantoïdori. Donc, Plantoïdori, donc il y a plant dedans, oïde pour comme l'androïde, donc un espèce d'hybride, et ori pour le pliage. Et une de mes questionnements, c'était sur le large champ du vivant. Il y a tout le règne des plantes qui représente 80% de la biomasse terrestre, et pourtant, on est à peine à considérer aujourd'hui les formes d'intelligence d'une plante ou au fait qu'elle soit aussi sensible qu'un animal, qu'elle ressente des choses, etc. Et donc, une des hypothèses que j'ai, c'est peut-être de me dire, c'est peut-être le fait qu'en apparence, elles ne bougent pas, les plantes, qui font qu'on a plus de mal à s'en rapprocher ou avoir un rapport empathique comparé à un animal. En fait, elles bougent tout à fait, juste sur une autre temporalité.
Alors, quand vous restituez ce que vous avez vu et digéré artistiquement, quels sont les choix que vous faites, justement ?
Alors, moi, je travaille de manière très intuitive, on va dire. Donc, c'est beaucoup par sérendipité. C'est un gros mot, mais voilà, c'est pour expliquer que c'est un processus de création et d'essai d'erreur, en fait, beaucoup. Donc, j'ai tendance à pas beaucoup travailler sur plan et conceptualiser les choses, mais plutôt par la pratique, à tester des choses, les retravailler et par intuition me dire « Ah, là, il y a un élément qui m'intéresse, je vais le développer, je vais l'agrandir, je vais le pousser ».
Est-ce que dans ce que vous testez, il y a des choses que vous avez détestées ?
Oui, il y a plein de choses que j'ai détestées et souvent on les range quand même, on les jette pas, on les range dans un petit sac et puis on sait qu'ils vont ressortir. C'est aussi ça, pour ça que c'est très riche de travailler donc en laboratoire de recherche. Donc pendant quasiment 6 mois, j'ai été tous les jours au laboratoire des Frost, donc dans un bureau avec plein de robots, avec des machines, etc. Et où j'étais amené à faire de l'art plastique au sein d'un labo de recherche. Et en fait, c'est très intéressant parce que je vois aussi toute la phase de création chez eux des robots et toutes ces phases où, pareil, ils ont des incohérences, des robots qui fonctionnent pas, etc. Et moi, ça va m'intéresser aussi d'aller chercher dans ce qui ne marche pas dans la recherche, des éléments qui pourraient être tout à fait pertinents en termes d'art plastique.
Alors, quand vous dites que vous gardez des choses, ce sont des choses matérielles ou des idées? Est-ce que vous avez une base, un data de tout ce que vous avez déjà intégré dans votre base de données?
Alors ça va être les deux, effectivement. J'ai voilà, à mon atelier des tonnes et des tonnes de boîtes de prototypes, de pliages, de froissage, de choses en attente. Et puis effectivement toute une série de choses plus numériques sur des... Beaucoup de carnets, hein, je travaille encore beaucoup à la main et beaucoup sur mon PC aussi. Oui.
Alors, du point de vue des matériaux, alors bien sûr, quand on pense pliage, on pense le papier, mais il n'y a pas que ça, et même vous le dites, hein, la peau est en quelque sorte à certains endroits pliée. Et donc, montrer tout ça, ça suppose d'avoir des supports physiques que vous retravaillez, que vous mettez, j'allais dire, en scène.
Oui, donc effectivement, à l'exposition, donc il y a une combinaison de papier, de textile, de plastique aussi. Toute une série de matériaux qui ont des esthétiques différentes déjà, et puis des propriétés aussi mécaniques. Assez rapidement, quand j'ai créé des robots pliés, j'ai eu tendance à éviter le papier, puisque à force de faire 50 mouvements, le papier va finir par se déchirer. Donc on cherche des nouvelles matières qui sont... à la fois souple et flexible et très fine pour être pliée et en même temps assez solide pour assurer des mouvements réguliers des robots.
Voilà, donc là on n'a pas encore présenté l'œuvre ou l'exposition ou l'installation, je ne sais pas, vous me direz le mot qui vous plaît. On va entrer maintenant dans la façon de présenter tout ce que vous avez mis en phase d'une certaine manière à partir de vos travaux de recherche.
Donc l'exposition donc, présente l'aboutissement de quasiment un an de recherche avec 6 mois au laboratoire et puis toute une phase de création de ma part plastique. Et donc c'est une exposition, une installation on va dire semi-immersive donc, qui présente un univers organique qui peut faire penser à un fond marin ou à un monde plutôt dans l'espace. Donc avec ce que j'appelle un substrat qui va former l'immersion et avec des robots pliés qui viennent être amenés, posés. Voilà. Et il y a aussi tout un espace de médiation dans l'exposition donc qui présente aussi toutes les recherches que j'ai pu faire avec le laboratoire, comment ça s'est passé, quels sont justement tous les prototypes qui ont marché ou pas et les dessous de la création.
Alors, on va écouter un tout petit extrait de l'œuvre sonore qui est diffusée dans le lieu. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une boucle.
Oui, c'est une boucle, effectivement, donc je ne sais plus exactement combien de temps elle dure, mais donc elle tourne en boucle.
Dans les 2 minutes, un peu moins.
Mmh. Et donc ça, c'était on a travaillé en captation sonore donc avec Vincent et moi-même pour capter les sons, et c'est une création de Léo Soda qui a fait le montage.
D'accord, donc je pense qu'on va être en mesure, dans très peu de temps, d'écouter un petit peu cette ambiance sonore, je ne sais pas si on peut dire ambiance, oui. Décor sonore, comment on pourrait dire?
Oui, ambiance, c'est bien.
Ambiance, c'est bien. Alors allons-y, on écoute un tout petit extrait. À l'espace culture de la cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq jusqu'au 27 octobre 2022 est présenté Plantoïdori, une exposition de l'artiste Devi Brunet qui marque la fin de sa résidence AirLab. Artiste en immersion aux recherches dans un laboratoire est un projet du département culture de l'université de Lille soutenu par Le Frénois qui met en relation artistes et chercheurs. Dans le cadre de sa résidence, l'artiste spécialisé en pliage s'est associé à l'équipe Defrost de INRIA, expert en robotique déformable. La traversée de l'exposition se fait dans l'univers musical de Soda, créateur sonore. Voilà, donc Soda, alors créateur sonore, j'ai dit ça, mais dans l'univers musical, on peut dire sonore, enfin, ça se confond un peu maintenant, non?
Oui, là je ne suis pas expert.
Ça peut tout à fait se dire, créateur sonore. Léo, c'est quelqu'un qu'on a rencontré à l'université, c'est un ancien étudiant, il est sorti du cursus maintenant, là, tout récemment, cette année. Il était en musicologie, on s'est rencontré il y a quelques années, je lui ai proposé, je suis passé dans les classes de musicologie pour savoir s'il y avait des étudiants, toujours pareil dans cette volonté de lier en fait les étudiants aux présences artistiques, s'il y avait des étudiants qui étaient intéressés pour rencontrer les artistes pendant des phases d'exposition et pour créer justement, pour proposer des habillages sonores avec l'accord des artistes bien sûr, et puis en intelligence avec eux quoi. Et Léo a répondu présent dès le début et puis on l'a fait 2-3 fois et là avec Plantoïdori c'est la dernière dernière collaboration qu'on a pu faire ensemble. Et puis maintenant, il va voler de ses propres ailes, le petit Léo, parce qu'il se professionnalise, il bosse avec une compagnie de théâtre et tout ça. Donc, ça, c'est super pour lui. Et donc, bien sûr, ce qu'on a entendu, c'est sans la voix de René pendant l'exposition.
C'était pour relancer un petit peu le thème.
C'est bien parce que ça fait un petit rappel condensé un peu de ce qu'on a pu dire. Et c'est vrai que ça apporte énormément au côté immersif. Parce que même sans ça, en fait, il y a évidemment les robots de Dewey qui émettent des sons au sein de l'exposition. C'est une expo qui se veut donc semi-immersive. C'est vrai que l'environnement est assez calme. On est plutôt plongé dans une forme de semi-pénombre où on distingue des formes, on distingue même beaucoup plus. On voit pas mal de choses qui bougent. Mais c'est vrai que c'est un univers assez tapissé, on va dire, c'est plutôt dans l'ombre, oui. Et le fait d'avoir cette ambiance sonore rajoute vraiment au côté expérience qu'on peut avoir en rentrant dans cette salle d'expo. C'est vrai qu'on peut y voir plein de choses. Et c'est bien que Dewey donne pas trop de pistes là-dessus, effectivement, parce que c'est vraiment une proposition. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Mm-hmm. Bon, après, j'ai bossé avec Dewey pendant un moment, du coup, je suis bien au fait de ce qu'il voulait dire. Mais c'est vrai que c'est aussi pour avoir pu témoigner des réactions des visiteurs. C'est une proposition qui peut sembler abstraite, mais qui se doit de l'être aussi, parce qu'on arrive vraiment dans quelque chose d'assez irréel, en fait, quand on rentre dans cette exposition. Et on peut y voir plein de choses en fonction des références qu'on a, des références qui peuvent être partagées avec celles de Dewey, mais qui peuvent être aussi tout à fait autres.
Alors, pour parler d'univers sonore, hein, c'est vrai qu'on a parlé de la relation forte avec le Frénois, hein, en l'occurrence. Et quand on va au Frénois, notamment dans les présentations des panoramas, qui sont la restitution des artistes en résidence, qu'on appelle des élèves, mais qui ont déjà un passé, hein, d'artistes, un vécu, on a énormément d'espace, quand je dis d'espace, d'installations qui utilisent des créateurs sonores pour mettre en valeur ou participer au projet. Est-ce que l'artiste associé pourrait imaginer, à partir de ce partenariat, aussi intervenir au Frénois ou dans d'autres lieux de ce type?
Tu veux dire
le compositeur
Léo Soda, pour le coup, est-ce qu'il pourrait
C'est une proposition qu'il peut faire.
De participer au sein du Frénois. Je suis pas sûr que ça puisse fonctionner comme ça, en fait. Mmh. À mon avis, parce qu'au Frénois, si j'ai bien compris comment ça se passait, chaque étudiant artiste, donc, qui est pris au Frénois, donc fait une candidature pour le Frénois, et c'est en 2 ans. Et chaque année, il y a un projet qui est budgétisé à hauteur de 8000 euros. Mais pour lequel l'artiste est... Il y a des chargés du suivi des projets, évidemment, qui sont des salariés du Frénois. Et il y a aussi des professeurs artistes internationaux qui sont invités, et ça tourne tous les ans, qui, eux, chapotent un petit peu l'ensemble aussi des propositions. Mais sinon, je crois que le but, c'est aussi que l'artiste est élève, donc oui, chaque artiste élève, doive développer son projet. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit obligé d'être seul, mais en gros, c'est vraiment une institution qui est spécialisée dans le son et l'image, quoi. Mmh. Du coup, quand on sort de là, effectivement, on a un bagage technique et créatif et artistique assez avancé là-dedans. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font. À chaque projet, énormément de projets qu'on voit à Panorama, effectivement, mêlent son et image. Forcément, du coup. Ouais. Mais oui, j'ai du mal à répondre à cette question. En fait, je ne sais pas si Léo pourrait proposer ses services.
Non, je ne sais pas. Donc, on peut peut-être rappeler qu'au Frénois, il y a eu de grands maîtres qui ont accompagné les projets des étudiants, notamment Jean-Luc Godard, décédé il n'y a pas très longtemps, qui a marqué aussi parce qu'il donnait ses correspondances en visioconférence déjà il y a 10 ans. Oui. Et donc c'était d'une certaine façon une innovation aussi de pouvoir donner des cours ou des conseils à distance. Il était en Suisse, hein, bien sûr. Mm-hmm. Voilà, donc on revient à Dewey, Brunet, pour cette présentation. Donc je vais redire quelques petits éléments peut-être plus concret. Donc, dans cette installation, il y a plusieurs espaces, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a des choses un peu mystérieuses dans des tons sombres de décor, on va dire. Et dans ce décor, il y a des... Alors, je ne sais pas si on peut dire des objets, mais en tout cas, des êtres mystérieux plutôt facile à voir en blanc sur le fond noir ou en écru ou en un peu jaune. Et il faut parfois un peu de temps pour voir que ces choses bougent et d'une certaine manière vivent.
Oui, absolument. Donc c'est aussi une installation qui invite à prendre le temps de découvrir, à rechercher, à regarder un peu où sont cachées les choses, à voir qu'il y a des choses qui bougent, d'autres qui ne bougent pas, avec toujours un rythme lent. Donc là, j'ai travaillé aussi avec les chercheurs du laboratoire pour travailler le code qui permet de faire bouger comme on veut ces robots-là. Et donc de toujours chercher ce rapport organique, de vraiment d'avoir un résultat, un peu comme Vincent le disait, qui reste dans un univers d'abstraction, mais bien sur une base organique. Donc on sente qu'il y a une espèce de respiration ou de mouvement qui est de l'ordre du vivant.
Alors pour les auditeurs qui nous écoutent en direct, eh bien, on va dire que le vernissage a lieu mercredi de la semaine prochaine.
Hein, le 28, ouais, à 18h.
Mmh. Et donc, qui peut venir à ce vernissage?
Tout le monde.
Tout le monde. Mmh. Il suffit de pousser la porte de l'espace culture. Exactement. De l'université, cité scientifique.
Hein, c'est ça.
Métro cité scientifique. On sort un peu à gauche et c'est
exactement.
Bon.
Exactement, c'est le bâtiment bariolé avec une grande fresque à l'extérieur. Il est un peu immanquable.
Eh bien voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur l'année en termes de richesse par rapport aux arts plastiques, bien sûr, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui.
Ben, là, tout de suite, ce qui me vient, c'est ce côté engagé des propositions artistiques en ce moment, et de celles qu'on propose en tout cas, mais même de toute façon, j'ai l'impression un petit peu de partout. Évidemment, c'est dans l'air du temps. Engagé en termes d'écologie, d'attention à l'environnement, de vision. Alors, celle de Dewey est assez particulière là-dessus, parce qu'effectivement, encore une fois, cette ambiance, cette proposition que tu fais de proposer un univers où s'hybrident la robotique et le végétal. Donc, le végétal, comme tu le disais, qui est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très considéré, même si il commence forcément à l'être, forcément, ça crame de partout. Mais, et puis, ça n'a pas attendu ça, de toute façon. Et cette histoire de paradigme autour de la robotique, menace ou fantasme, le fait d'avoir cette proposition d'hybridation entre les deux et de laisser au spectateur aussi, de permettre au spectateur d'avoir un temps de réflexion et de se poser justement des questions par rapport à ce qu'il va voir dans cet environnement. Enfin, c'est quelque chose qui est assez qui est important en fait en termes d'éveil. Je dis pas qu'il faut ça pour que les gens s'éveillent, mais c'est important de prendre le temps de se poser ce genre de questions et de permettre aux gens aussi. C'est ça aussi qui est bien dans cette exposition, c'est que Dewey, comme tu me le disais aussi pendant le temps les temps d'installation, t'es pas forcément tu fais pas énormément d'expositions à proprement parler, même si tu as beaucoup de pratiques, bien sûr, je te laisserai développer après là-dessus. Mais et du coup, ton rapport aux expositions est assez différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de trouver dans des musées, notamment, où on a une distance qui est faite par rapport aux œuvres. Là, effectivement, c'est ça, ce côté toujours semi-immersif, ce côté mouvement aussi de ces objets hybrides qui sont déclenchés par des capteurs, invite du coup à se rapprocher pour déclencher certains mouvements. Puis pareil, ce truc super important aussi... Moi, j'ai pas envie de griller toutes les cartouches, mais il restera plein d'axes de lecture aux visiteurs qui feront le déplacement, de toute façon. Mais ce côté questionnement ce que les chercheurs vont essayer de mettre au point, à savoir des objets qui fonctionnent parfaitement, qui ont un but très précis, avec un mouvement très précis, qui doit faire se relier ce point A à ce point B. Et d'un autre côté, ce qu'on trouve plus facilement dans la nature, à savoir parfois des erreurs, des malfonctionnements et qui sont reproduits aussi dans cette exposition, mais qui t'as laissé leur chance en fait et à qui tu laisses le droit d'être vu justement quoi. Et donc voilà, tout ça pour dire que ça c'est super intéressant en fait pour de pouvoir proposer ce genre d'exposition où on permet de prendre le temps de se questionner sur ce genre de sujet. Et effectivement, pour revenir à ce que tu disais, il y a d'autres expositions qui vont avoir un lien aussi avec ça. Il y en a une en ce moment à Pont-de-Bois, où c'est une artiste qui, elle aussi, a bossé, alors pour le coup, pendant une des résidences Wadji Space, dont je parlais tout à l'heure avec 50 degrés Nord, qui a travaillé avec un institut, l'Institut Charles Violette, qui fait de la biogénétique, oui, c'est ça, mm-hmm. Et qui, elle, travaille sur la base de son travail, c'est la cueillette, enfin c'est la cueillette, c'est l'attention portée aux plantes sauvages, aux mauvaises herbes, comme on dit. Et du coup, toute cette pharmacopée qu'on a plus ou moins oubliée ou qui est en train de revenir ou pour qui connaît un regain d'intérêt en ce moment chez certaines personnes. Et elle met ça en avant et elle a travaillé donc avec ce laboratoire. J'en dis pas beaucoup plus là-dessus, mais pareil, on est aussi sur une thématique qui s'intéresse pour le coup directement au végétal aussi.
Ce sera quand la présentation ?
C'est ce soir.
Ce soir.
Vernissage ce soir.
Ah ouais.
Donc, à Pont-de-Bois. Hein, campus Pont-de-Bois cette fois-ci.
Très bien. On pourrait peut-être aussi dire que ces expositions sont pas complètement en décalage avec la thématique de l'île 3000 en ce moment.
Effectivement, oui.
David Brunet, est-ce que vous avez eu le temps de voir des choses qui vous ont peut-être intéressé dans...
Oui, donc effectivement, l'exposition est aussi intégrée dans le cadre de l'île 3000 Utopia, donc qui est un thématique aussi qui se porte bien à mon exposition. Et on va retrouver effectivement beaucoup d'expositions que j'ai déjà pu croiser, Tripostale, Saint-Sauveur aussi, on m'a dit de... Léo, justement, que j'ai vu ce midi, m'a dit d'aller voir à Saint-Sauveur. Et qui ont un peu ce fil conducteur aussi des enjeux... Les enjeux environnementaux, même si je suis partagé, j'ai vu des choses très belles et puis j'ai vu des choses aussi sur les thématiques d'enjeux environnementaux qui parfois restent aussi très, très sur la surface ou qui peuvent même des fois renforcer aussi notre image un peu rationalisante, on va dire, du vivant ou de ce qu'on appelle nature, etc. Voilà. Et pour rajouter quand même un point sur l'université, l'intérêt aussi, je pense, et moi je l'ai trouvé sur le programme AirLab, qui est porté par l'université, c'est bien ce croisement des disciplines, cette interdisciplinarité qui est très important dans mon travail, et qui est d'autant plus importante, je trouve, à l'université, où, comme beaucoup de lieux d'enseignement, on va tendance à avoir des choses en silo, donc bien diviser les disciplines, on enseigne ça, on n'enseigne que ça. Aujourd'hui, on voit que dans notre monde complexe, sur des enjeux aussi importants que climatiques, environnementaux, on ne peut plus répondre à des solutions qui sont uniquement dans ce domaine-là, et qu'il va falloir commencer à travailler ensemble, à voir comment les autres fonctionnent, et commencer à croiser effectivement la science et l'art, ou la robotique et le vivant.
Alors jusqu'à un certain moment, on va dire au XVIIe siècle, on pouvait être un peu universel en tant qu'intellectuel, pour résumer. Depuis, il y a tellement de choses qu'il faut ingurgiter pour être universel que ça s'est un peu éclaté en discipline, on va dire ça. Mais les équipes pluridisciplinaires, par contre, pourraient avoir cette faculté de rassembler sur des thématiques ou autres des personnes qui ont une partie de la connaissance.
Oui, absolument. Et moi, en tout cas, je le remarque, c'est très riche, en fait. Une fois qu'on collabore, alors c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours les mêmes méthodes de travail, les mêmes objectifs. Mais on se rend compte qu'en fait, il y a plein d'endroits où on se rencontre, entre artistes et chercheurs, en tout cas. J'ai tendance à croire que c'est la face d'une même pièce et qu'à plein de points, en tout cas, on a des intérêts communs.
Voilà, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne rentrée, même si elle a déjà commencé. Hein. Et puis, donc, de beaux projets à venir. Et puis, que le public soit au rendez-vous, c'est important. On rappelle l'exposition qui est visible avec un vernissage la semaine prochaine à 18h.
Vernissage mercredi 28 à 18h. Et sinon, l'expo est visible jusqu'au 27 octobre. Alors, on reste dans un lieu universitaire. Du coup, c'est fermé le week-end. Mais par contre, c'est donc visible tous les jours, du lundi au vendredi. Du lundi au jeudi, 9h-18h. Et le vendredi, un petit peu moins, c'est 9h-16h.
Voilà, et bien sûr, cette exposition est appelée, si tout va bien, à s'exporter au-delà de l'Université de Lille. Hein, on l'espère, oui. David, on croise les doigts.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci à toi.